Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato ma no, e va bene lo so, ma com'è bella la vita e la tua faccia alle 6 di mattina.
Ma tu non piangere.
Aligre FM présente Cappuccino.
Michel, il a du courage, il dit, il fait beau. Non, surtout pas dans sa Bretagne, certainement, entre autres, hein, j'espère. Bien, Fabrice.
Buongiorno, Renato.
Buongiorno, buongiorno, come va?
Buongiorno a tutti, très bien.
Ça fait plaisir. Eh bien, aujourd'hui, tu as un invité de marque.
Hein. Un invité de marque, on va vous présenter, qui est déjà là dans le studio. Mais en tout cas, je voulais te remercier pour tout ce que tu as dit. D'ailleurs, on va en parler un petit peu avec
l'invité. Ça me fait plaisir.
Mais ouais. C'était très, très beau. Et puis, la poésie, c'est aussi la force de ce monde qui est vie à voir. Enfin, en tout cas, merci pour cette belle émission, Renato. Et de toute façon, tu restes avec nous.
Oui,
tu interviens quand tu veux. Raffaele D'Agostini est aussi dans le studio. Enrico à la technique qui fait un super travail. Merci beaucoup, Enrico. Rapidement, le sommaire, on va parler sport avec le Vendée Globe. Il y a eu la conférence de presse le 6 février. Il y a une vidéo, il y a un film de Marco Bellocchi, un vieux film des années 80. On va vous en parler. On va vous parler dei balli italiani en région parisienne. Enfin, quelques-uns. Et en interview, notre invité speciale, Alberto Toscano.
Grazie, grazie.
Buongiorno Alberto.
Buongiorno a te e grazie a voi tutti. Oggi la giornata non è straordinaria, ma cerchiamo di riscaldarla.
Ci riscaldiamo con te, con la tua bella voce. E justement, tu étais là quand Renato a parlé de Manoukian, de l'affiche rouge. Etc. Donc, on va en parler un petit peu avant.
Volontiers, Renato a dit des choses très belles et très justes. Aujourd'hui, on entend souvent l'expression français de préférence, français de choix, français de cœur. C'est vrai, ces émigrants qui se sont battus et qui sont morts pour la France étaient des Français de cœur. En même temps, on ne peut pas oublier le fait que ces étrangers qui se sont battus dans la résistance française ont été considérés des migrants et pas des Français à leur époque. Et la guerre finie, une fois la résistance triomphante après le 45, plusieurs de ces personnes ont été volontairement éloignées de la France et plusieurs de ces personnes se sont vues refuser le passeport français et la nationalité française. Qu'ils soient des Italiens, qu'ils soient des Espagnols, qu'ils soient des Polonais, qu'ils soient des Juifs de différentes origines de l'Europe, surtout orientale. Ces mêmes personnes qui se sont sacrifiées ont été, la guerre finie, en difficulté devant une France qui voulait se considérer la seule titulaire de revendiquer la gloire de la résistance.
Éloignée des Français de souche.
Exactement. Donc aujourd'hui c'est juste et c'est vrai et c'est opportun de parler des Français de cœur de la part de ces migrants qui se sont battus. Mais la France a employé des décennies à reconnaître la gloire et les mérites de ces migrants. Et je parle par exemple des Espagnols. Le 24-25 août prochain, on va célébrer à Paris les 80 ans de la victoire de la libération de Paris. Mm-hmm. Hein? Et les premiers qui sont arrivés à l'hôtel de ville à Paris le soir du 24 août 1944 étaient des Espagnols. Des républicains espagnols qui se sont battus de la résistance française, exactement comme Rino de la Negra et Sparta Fontanot, Je dis bien Fontanotte, parce que c'est Frioul. En Inter, aujourd'hui, il y a la rue de Trois-Fontanotte. Ces Trois-Fontanotte, Spartaco, Giacomo, Jacques et Nérone, ont été massacrés, tués pendant la résistance. Et c'était des Italiens de Frioul. Mmh. Et alors, cette mémoire, et aujourd'hui, heureusement, elle est considérée comme officielle. Mais la France a employé des décennies à reconnaître le poids fondamental que les migrants étrangers ont eu dans le succès de la résistance française.
Alors, merci beaucoup Albert. On va continuer de toute façon à parler de ça. Et on est là aussi, effectivement, pour parler de tout ça, pour que passer cette parole et garder bien à l'esprit toutes ces notions dont tu parles si bien et qu'on a plaisir à écouter. On va faire une petite pause musicale avant d'attaquer tout notre programme. Lors de l'au-revoir qu'on avait fait au studio de la rue de Montreuil, puisque là on est dans les studios du 13e arrondissement, j'avais demandé sur les réseaux sociaux aux gens de me recueillir un peu leurs plus beaux souvenirs musicaux italiens. Donc j'ai recueilli un certain nombre de choses et aujourd'hui on va passer toutes ces chansons qui ont frappé, qui ont été associées à un moment de l'histoire d'individus, de tout le monde, des franco-italiens notamment. Et on commence avec un des plus grands, Lucio Battisti, et en 72, Il mio canto libero, c'est le souvenir de Flavien.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore. Mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai. Sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,
ci chiamano boschi abbandonati e perciò sopravvissuti vergini si aprono, ci abbracciano.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Bonne matinée sur Aligre FM, on vous accompagne jusqu'à 11h. On va donc, je vais vous rendre compte un peu de la conférence de presse du Vendée Globe 2024-2025 donc, qui s'est tenue il y a 15 jours, c'était à l'UNESCO, puisque l'UNESCO est le partenaire privilégié du Vendée Globe. 44 skippers qui sont prêts à en découdre pour une course autour du monde en solitaire. On s'intéresse au Prismian Group, vous le savez, depuis quelques années. Giancarlo Pedot est le Florentin. Il est au taquet, il a un bateau avec des nouveaux foils, là, les ailes qui permettent de s'élever au-dessus de l'océan, d'avoir moins de frottement. Nouveau foil de dernière génération, il a les couleurs du drapeau italien maintenant qui sont peintes sur son plan VPLP Verti qui date de 2015, mais donc voilà, qui a été un peu boosté. Donc je l'ai interviewé à la sortie de la conférence de presse du Vendée Globe. Alors j'ai fait des questions en français, des questions en italien. Ce qui est intéressant, c'est que son ressenti en français était assez humble. Il dit « je vais me préparer au Vendée Globe, vous allez bien écouter ». Et son ressenti en italien, alors là il était beaucoup plus pugnace. Il dit « mais je vais faire un score, je vais faire mieux que la dernière fois », etc. On rappelle que c'est un tour du monde en solitaire, donc de 3 mois. C'est pas une course de vitesse, c'est vraiment une aventure. Il peut se passer plein de choses, des problèmes de santé. Ils sont tout seuls, ils doivent être leur propre médecin, leur propre technicien. S'il faut monter au mât, le mât a fait 29 mètres de haut. Tout peut se passer, donc c'est la technique. Giancarlo Pedotte, on va lancer cette rubrique et qu'on va avoir d'autres. On va vous faire suivre tout cela sur Cappuccino. On a un petit jingle que nous a aimablement concocté Giancarlo.
Giancarlo Pedotti al Vendée Globe con la squadra di Cappuccino.
Con la squadra di Cappuccino, parce qu'à Cappuccino, il n'y a que des sportifs, que des aventuriers, c'est bien connu. On salue Michel Gauthier d'ailleurs, qui est au bord de l'eau en Bretagne, un Pampolais. Et donc, on va écouter Giancarlo qui va nous dire dans quel état d'esprit il est pour ce prochain Vendée Globe, donc, qui partira des Sables d'Olonne en Vendée le 10 novembre 2024.
Giancarlo, donc c'est le deuxième Vendée Globe pour toi. Tu t'appuies sur quels avantages maintenant pour faire ce Vendée Globe? Donc tu as un bateau avec des nouveaux foils. Ton bateau, il a aussi une bonne expérience. Toi, tu as une bonne expérience. Donc quelles sont tes forces pour ce prochain Vendée Globe?
Déjà, d'avoir bouclé un Vendée Globe, ça génère un avantage psychologique. Après, forcément, c'est une course très très compliquée. Donc je pense qu'il ne faut pas se relaxer et surtout pas penser que comme on a bouclé un premier, que c'est aussi facile de ne boucler un deuxième. Parce que c'est une course avec beaucoup d'aléas, beaucoup de choses qu'on ne peut pas gérer. Les bateaux en plus, notamment comme tu l'as dit, je l'ai bien upgradé. avec une nouvelle étrave, de nouvelles foils, donc elle commence à être un peu vachement plus puissante. Et par contre, tous les impacts à laquelle la plateforme est soumise sont plus violents. Donc il y avait l'aspect aussi de la gestion du bateau. On l'a même vu sur la dernière course, des accidents qui sont passés à mer, donc la gestion du bonhomme. Je pense que c'est une course où il ne faut jamais penser d'avoir les finishes dans la poche. Il faut rester toujours alerte. Et donc je pense que je vais aborder cette deuxième Vendée Globe d'une forme très très humble. Même si j'ai réussi à les boucler un premier, il faut que je reste tout le temps concentré sur tous les jours des courses.
Qu'est-ce que t'as apporté justement ce premier Vendée Globe, cette première course autour du monde?
Pour moi, c'était une expérience extraordinaire sur plusieurs aspects. Bon, l'aspect sportif, bien évidemment, parce que c'est une compétition qui, dans mon cas, ça a duré 80 jours. Après, dans mon premier Vendée Globe, j'arrive à terminer 8e, qui c'était un résultat plutôt satisfaisant pour mes sponsors. Et après, bien évidemment, il y a des moments, des contacts avec la nature qui sont incroyables. Je pense qu'on est des privilégiés à pouvoir naviguer dans les mers du Sud et voir les albatros dans notre sillage. C'est quelque chose d'unique. Moi, quand j'étais à l'école primaire, j'avais jamais imaginé que j'aurais pu avoir accès à une expérience de cette typologie. Donc, c'est quelque chose vraiment d'incroyable et très intense.
Hai fatto un primo Vendée Globe eccezionale. Qual è la tua sfida per questa prossima edizione?
Per la prossima edizione del Vendée Globe, la sfida è certamente quella di avere dei risultati sportivi più soddisfacenti del primo. Chiaramente la concorrenza in questo momento è salita molto, ci sono moltissime barche nuove, tante barche di nuova generazione che si sono comunque dotate di armi assai performanti. Quindi cercheremo di mettere tutte le chance per preparare la nostra Prismia al meglio ed essere competitivi. E chiaramente di aver già fatto un primo Vendée è un piccolo cuscino psicologico, perché comunque già conosco un po' cosa significa navigare nell'Indiano, nel Pacifico, le problematiche dell'Atlantico, del Nord, del Sud. Quindi avere già degli scenari, delle immagini, la gestione delle depressioni a quelle latitudini è sicuramente un piccolo passo, diciamo, verso l'approccio al secondo Vendée Globe.
Voilà Giancarlo Pedotte qui nous racontait ça, justement, les mers du Sud, très dures avec la tempête, les mers, l'Atlantique avec les alizés, les albatros. Alors là, on est en t-shirt, il fait beau, il y a les couchers de soleil, c'est magnifique. Et d'un jour à l'autre, dès qu'on passe aux mers du Sud, dès qu'on passe l'Afrique du Sud, l'inferno. Psychologiquement, médicalement, enfin tout peut se passer. Je rappelle que Prismian Group, son bateau, donc c'est son principal sponsor depuis pratiquement 15 ans, une très longue. Il l'accompagne depuis une très longue période. C'est l'ancienne filiale de Pirelli, Pirelli Cavi e Sistemi, qui a été créée juste après la fondation des pneus Pirelli. Donc c'est un sponsor qui a été racheté à un moment donné par Goldman Sachs, mais qui est quand même à la base italien. Voilà, on va écouter deux autres skippers que j'ai eu la chance d'interviewer. Fabrice Amedeo, qui est issu d'une vieille famille italienne, qui lui a la particularité d'embarquer des capteurs océanographiques qui vont mesurer le CO2, la salinité, la pollution, notamment des microplastiques, l'environnement, la biodiversité, parce qu'on a très peu de données dans les mers du Sud. Donc on va écouter Fabrice Amedeo et ensuite Samantha Davis, qui va nous parler aussi qui a une Italienne dans son équipe que je ne savais pas, qui s'appelle Victor Ripa di Meana, qui est milanaise, et puis je vais en parler après de Samantha Davis, puisqu'elle a un grand objectif aussi au niveau humanitaire. C'est pas simplement un objectif sportif, mais c'est un objectif humanitaire. Fabrice Amedeo et Samantha Davis à la conférence de presse du Vendée Globe à l'UNESCO.
Fabrice Amedeo, donc c'est votre troisième Vendée Globe?
Oui,
si c'est bien ça.
C'est le troisième Vendée Globe.
Alors comment vous l'abordez?
J'aborde ce troisième Vendée Globe avec beaucoup de sérénité et en même temps une petite revanche à prendre, puisque j'ai réussi mon premier Vendée Globe, que j'ai bouclé en 11e position, en 103 jours. Mais malheureusement, mon deuxième Vendée Globe ne s'est pas bien passé et j'ai abandonné en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, j'ai une case qui est cochée, j'ai terminé un Vendée Globe, mais j'ai malheureusement eu un échec. Et donc là, il y a une vraie volonté de prendre le départ de ce Vendée Globe depuis 4 ans. mais surtout d'en franchir la ligne d'arrivée, avec sur mes épaules une grande pression de la communauté scientifique, puisque j'ai sur mon bateau des capteurs océanographiques qui mesurent le CO2, la salinité, la température, la pollution anthropique avec notamment le microplastique et également l'ADN environnemental, donc la biodiversité. Donc j'ai tout un dispositif de capteurs qui va permettre d'aller chercher des datas dans les mers du Sud, hein, les mers au sud de la planète, qui sont peu connues des scientifiques, parce qu'il y a peu d'expéditions scientifiques dans ces endroits-là. Et donc les scientifiques comptent vraiment sur moi cette année pour boucler la boucle, faire un beau Vendée Globe, ça c'est la dimension personnelle, mais aussi faire le tour du monde et ramener des données inédites pour la communauté scientifique.
À la conférence de presse, vous avez carrément dit que vous vous êtes interdit d'abandonner ce Vendée Globe. Donc vous mettez... c'est votre défi, c'est ça?
Ah bah mon défi, c'est d'essayer de faire le meilleur classement possible, mais c'est surtout de terminer le Vendée Globe. De toute façon, un Vendée Globe, moi je dis toujours, ça se gagne ou ça se termine. Moi, j'ai pas un profil de skipper pour gagner le Vendée Globe, j'ai pas le bateau non plus pour gagner le Vendée Globe. Donc, au-delà du classement, ce qui est le plus important, c'est de jouer la fiabilité du projet, de terminer le Vendée Globe, de porter des beaux messages en faveur de la préservation des océans et de la transition énergétique. Et puis après, si chemin faisant, j'arrive à faire une belle performance, ce sera que du bonus.
Et c'était la raison où vous a poussé à abandonner la dernière fois?
En 2020, j'ai arrêté en Afrique du Sud parce que j'ai eu un blackout complet de tous mes systèmes informatiques.
Donc un problème technique malheureux.
Un problème technique malheureux.
Pas un OVNI, pas...
Non, pas moi.
Pas des choses comme ça, d'accord. Samantha Davis, vous avez terminé 5e de la dernière Transat Jacques Vabre. Vous avez un bateau Initiative Cœur 4 très performant. C'est votre 4e Vendée Globe. Comment vous l'abordez?
J'ai hâte déjà. Je l'aborde aussi avec... je sais que c'est un privilège de pouvoir faire cette course incroyable, le tour du monde sans escale, sans assistance. Et en plus... d'être skipper de ce projet unique, Initiative Cœur, où j'ai, oui, l'objectif performance, j'ai un super bateau, je sais que je peux faire un beau résultat, mais j'ai un deuxième objectif aussi important, c'est un projet qui a du sens, je soutiens mes synergies cardiaques pour essayer de sauver un maximum des enfants.
Donc vous avez déjà sauvé 360, c'est ça?
Dans l'histoire du projet Initiative Cœur, donc depuis le premier Vendée Globe que le projet a fait avec Tanguy de la Motte, le skipper précédent, en 2012, depuis 2012, on a sauvé 384 enfants. Et là, on a un grand objectif de cap 500. Donc, à la fin du prochain Vendée Globe, notre objectif, c'est d'avoir sauvé 500 enfants par ce projet Initiative Cœur.
D'accord, 500 enfants, donc c'est votre défi.
Oui, et je compte sur le public parce que pour sauver un enfant, donc c'est les enfants qui ont les malformations cardiaques, qui sont nés dans les pays, ils ne peuvent pas être soignés chez eux. Mes trois partenaires, et eux, ils donnent 1 euro à la cause. Chaque fois, il y a un nouveau follower sur les réseaux sociaux du projet. Donc c'est gratuit pour le public de me soutenir pour sauver les enfants. Et chaque fois, on arrive à 12 000 euros levés. Ça, c'est le prix pour payer les frais médicaux pour sauver un enfant.
D'accord, ouais, bon, on l'avait suivi et on l'avait déjà relayé. On va continuer à le faire.
Daniel est aussi dans l'équipe technique.
Ah
ouais, nous, on a une équipe
multinationalité.
Et donc, c'est notre gréuse, donc Victoria.
D'accord.
Elle est italienne et elle est responsable pour tout ce qui est gréement, donc tout ce qui est cordage sur le bateau.
Voilà, Samantha Davis avec son projet Initiative Cœur. Alors, je vous le détaille un peu. C'est une formule qui marche bien parce que le public n'a pas besoin d'envoyer d'argent à la base. Vous suivez sur les réseaux sociaux Mécénat Chirurgie Cardiaque ou Initiative Cœur. Donc, c'est le nom du bateau de Samantha Davis. Et ça donne 1 euro. 1 euro est versé pour sauver des enfants. Donc 12 000 euros sont nécessaires pour opérer un enfant du cœur. 1 euro est versé par une entreprise. Donc plus il y a d'abonnés, plus il y a de followers, plus il y a de dons. Donc pas besoin de donner en direct. C'est sûr. Donc Initiative Cœur, il y a un Facebook, Mécénat Chirurgie Cardiaque aussi. Et on peut donner sinon sur mécénat-chirurgiecardiaque.org. Un don classique, voilà, c'est plutôt des entreprises qui sont là pour abonder, donc il faut parler un maximum autour de vous pour faire monter ça et pour faire sauver des enfants. Leur objectif, bientôt, ça va être, rien que pour le bateau Initiative Cœur, de sauver 500 enfants pour l'opération du cœur.
Questa è la storia di un'idea e di chi trovò la strada per farne una realtà. Così da cent'anni un'infinita via fa volare milioni di ciao, di come stai. Seppure noi siamo lontani, ci fa sentire più vicini e meno soli noi. Come un cuore che non si ferma mai, come un cuore che batte per noi, è una voce che come una luce brillerà. Questa è Team. Questa è Team.
Caro Alberto Toscano, di che parliamo?
Caro Francesco.
Fabrizio,
scusami.
Di che parliamo? Parliamo un po' di politica, della scène, sì. La scène italienne, toujours à l'avant-garde de la politique.
Parliamone. C'è tanto da dire, il y a beaucoup à dire.
On est là jusqu'à 10h30, on a encore formidable. Une bonne demi-heure avec toi. Fratelli d'Italia, donc c'est son parti, fondé en 2012. C'est elle a été la principale opposante à Mario Draghi. Mais quelle est la différence avec sa politique au final?
Sur la question ukrainienne, qui est aujourd'hui fondamentale, il n'y a aucune différence. Hier, Giorgia Meloni était à Kiev et elle a fait et dit ce que Mario Draghi a fait et dit avant elle. En plus, l'Italie a signé avec l'Ukraine le jour même du deuxième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine un accord, un traité pour l'aide de l'Italie à l'Ukraine de la même façon que la France avait fait avant elle. avant l'Italie. Donc, sur cet élément qui est aujourd'hui fondamental, il n'y a pas de différence. Et, tu vois, Fabrizio, quand on parle de ce gouvernement italien, qui est composé par des partis de droite et des partis qui se sont situés traditionnellement à l'extrême droite dans l'échiquier politique italien, on a envie d'exagérer, de trancher dans un sens ou dans un autre. Certains disent c'est formidable, d'autres disent c'est la catastrophe pour la démocratie italienne. Je crois qu'il faut
regarder. Parce que ça fait peur, l'ultra-destre.
Ça fait peur.
Mais est-ce que c'est comme il y a quelques années? Est-ce que maintenant on voit qu'ils sont au pouvoir? C'est pas. Voilà.
Voilà. Moi, je
parle... Ils ont mis de l'eau dans leur vin, on dit.
On peut dire. Il y avait beaucoup d'eau et beaucoup de vin. je crois que la première chose à dire, regarde l'Italie, ses institutions, sa démocratie. Une démocratie où il n'y a jamais d'alternance est une démocratie qui boite. Ça peut plaire ou non. Évidemment, l'alternance, souvent, ne plaît pas, parce que si tu es d'accord avec ceux qui sont au pouvoir, le fait qu'il y en a d'autres qui prennent le même pouvoir et tes amis passent à l'opposition ne fait pas plaisir.
Mais à propos, excuse-moi, Alberto, elle avait proposé de faire la Terza Repubblica. On en est où de ça? Alors, de modifier les institutions pour avoir un peu un quinquennat à la manière française, renforcer le pouvoir du Premier ministre.
Il y a le royaume de la réalité et le royaume des blabla.
Elle voulait le suffrage universel pour élire le Premier ministre.
Voilà, c'est
on en est où?
Un projet de réforme constitutionnelle qui est bien debout, qui est en train de préparation de la part du gouvernement et de la majorité de Giorgia Meloni. Moi, je crois que cette réforme constitutionnelle ne verra pas le jour, mais c'est une opinion personnelle.
C'est comme la 6e République de Mélenchon, alors.
Voilà, je rajoute, oui, mais Mélenchon n'est pas au pouvoir. Et Giorgia Meloni, oui. Et donc, elle peut booster ses initiatives par la force du pouvoir. Mais je pense que malgré tout, la démocratie italienne est telle qu'elle est aujourd'hui, et réformer les institutions en profondeur comme Giorgia Meloni voudrait faire n'est pas possible, parce qu'il faudrait passer ou pour une réforme qualifiée de 2/3 de majorité au Parlement, en plus sur un vote répété 2 fois dans chaque branche du Parlement italien, c'est très compliqué. La majorité actuelle n'arrive pas à ce niveau-là de 2/3. Et en plus, en cas d'absence de cette majorité qualifiée et de succès dans ce long processus parlementaire, il y aurait un référendum. Et je doute fort que le peuple italien soit aujourd'hui disponible à réformer en profondeur la Constitution, qui marche bien, parce que la Constitution italienne, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 1948, a donné des grands résultats. Et bien sûr, elle a des défauts.
Instabilité gouvernementale.
Mais cette réforme a garanti. Dans une situation par vent et marée, pour continuer le discours sur Vendée Globe, et dans une situation de tempête continue et dans des eaux difficiles par les océans de la politique, malgré tout, au bateau Italie de rester
à flot.
Donc, je crois qu'une réforme en profondeur de la Constitution italienne ne soit ni nécessaire ni facile à réaliser. Pour ceux qui regardent la gestion de la politique quotidienne, ce gouvernement a fait ce que tout gouvernement aurait probablement fait à sa place. Par exemple, je parle de l'économie, de certains choix qui ont été faits par rapport à l'Union européenne, l'effort pour obtenir l'argent promis par l'Union européenne dans le cadre du plan de relance et de résilience de l'après-Covid. Cet argent a été obtenu par l'Italie, c'était indispensable, ça a été réalisé. D'autres choses ont provoqué toute une série de critiques, par exemple, la gestion du ministère de l'Intérieur sur certains choix, mais dans l'ensemble, l'Italie a une situation, entre guillemets, normale, comme les autres pays européens, pour certains aspects, beaucoup plus tranquille d'ailleurs que la France, où la politique est objet aujourd'hui de toute une série de contestations parfois violentes.
Alors, on peut dire aussi que l'Italie a pris la présidence du G7, des dirigeants américains, anglais, japonais, allemands, canadiens, depuis le 1er janvier 2024. Donc ça aussi, c'est une influence sur la scène internationale. Qu'est-ce que tu veux en dire un petit mot ?
Bon, il n'y a aucun mérite, hein, parce que cette présidence est tournante. Il y a 7 membres et chacun, une fois tous les 7 ans, a cette présidence. Autre chose est donner une caractérisation politique, une vision à cette présidence. Je pense qu'aujourd'hui, certains sujets sont obligés. L'Ukraine, une fois de plus. Le Moyen-Orient, avec ses besoins absolus de stabiliser cette région, cette partie du monde, après la catastrophe absolue du massacre perpétré par Hamas le 7 octobre dernier. Et aussi un besoin de dialogue avec les États-Unis. Les États-Unis traversent aujourd'hui une période difficile. Les prochaines élections américaines au mois de novembre peuvent donner un résultat qui sera très inquiétant pour l'Europe, parce que l'éventuelle victoire de Trump poserait des problèmes sérieux à l'Union européenne et à l'Europe tout entière, qui pourrait se sentir isolé, et l'océan Atlantique deviendrait plus profond et plus large. Et donc, il y a toute une série de points d'interrogation par rapport à l'avenir, et le problème n'est pas tellement de l'Italie, et le problème de l'Europe tout entière qui doit se positionner, qui doit avoir une vision et qui doit avoir une stratégie et des propositions concrètes pour résoudre des problèmes comme l'énergie, l'environnement et tout ce qui regarde l'économie et nos sociétés. Ce qui se passe dans l'agriculture en est une démonstration évidente.
Oui, alors on va parler aussi un peu d'économie après. On va parler tout de suite après la pause musicale des agriculteurs, hein, la rabbia qu'il y a aussi en Italie, qu'il y a aussi en France. Je voulais simplement, pour terminer cette page un peu géopolitique, signaler que l'ambassadrice d'Italie en France, Emanuela D'Alessandro, a effectué une visite les 14 et 15 février, donc il y a quelques jours, à bord du porte-avions français Charles de Gaulle, dans le cadre du traité du Quirinal et de coopération renforcée France-Italie de 2021. Voilà. France-Italia, siamo legati, toujours, ça fait du bien. On va faire une petite pause musicale et on va parler ensuite des agriculteurs, i contadini. La pause, c'est Lucio Dalla, caro amico, ti scrivo.
Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando.
sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. Ecco come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Voilà, Lucio Dalla, c'est le souvenir de Marie-Claire, on la salue. Alors, les agriculteurs, Alberto, on a vu sur les piquets de grève des slogans. Senza allevamento non c'è futuro. Alors, j'en ai vu un qui était pas mal. Alors, salviamo il nostro cibo. I prodotti esteri pieni di veleni, mangiateli à Bruxelles. Donc, ils en ont gros sur la patate, sans jeu de mots. On va pas continuer avec les jeux de mots, mais tu m'as lancé avec les Vendée Globe et les océans. On a un peu la même problématique qu'en France. Il faut rappeler qu'en France, il y a à peu près 700 000 agriculteurs. En Italie, il y en a un peu plus, il y en a 900 000 qui sont organisés dans la Confédération Italiana Agricoltori, qui avant d'ailleurs s'appelait Coltivatori. On a les 6 000 Coldiretti. Et on a cette problématique de concilier d'un côté une agriculture nourricière, intensive, voire productiviste, pour nourrir les gens. C'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et de l'autre côté, la préservation de la biodiversité, protection des terroirs, comme d'ailleurs la toute récente IGP de la noisette du Piémont, hein, qui est ancienne, mais l'IGP, elle vient de tomber. Le mouvement Slow Food de Carlo Petrini, qui protège les terroirs, le phénomène épicier de Italie. Alors, comment en est-on arrivé, Alberto, à cette incompréhension, à ce fossé entre les gouvernements et les gens de la terre ?
Si, aussi entre les gens de la terre et l'Europe. Et le slogan que tu viens de citer, Fabrizio, à propos... I veleni mangiateli
à Bruxelles, c'est
significatif. Et effectivement, ce début d'année 24 est le début de la révolte rurale dans l'Europe entière, ou presque. On a vu en Allemagne, dans les Pays-Bas, en France, en Italie, en Espagne. Alors, il y a des éléments contradictoires dans cette révolte qui, dans cette certaines situations ont pris des caractères violents et très importants qui se sont imposés à l'opinion publique des différents pays et de l'Europe tout entière. Et il y a un caractère national et un caractère européen. Et est-ce que ces deux caractères sont en contradiction entre eux ? Parfois, oui. Parce que quand les agriculteurs français renversent les contenus de camions qui viennent d'Espagne et détruisent des tomates espagnoles Alors on n'est pas dans une optique européenne. on est dans une optique nationale, contre une optique européenne. Mmh. Et il faut rappeler, dans ce cas, aux agriculteurs français, que la France est un grand exportateur de produits agroalimentaires. Et si on entre dans une logique comme quoi la France ne peut pas importer les produits des autres, les autres n'importeront pas les produits français. Et le résultat sera que chacun mangera ses tomates, ses propres tomates et ses propres saucisses.
Ce qui n'est pas un mal.
Manger les tomates et les saucisses produites localement est quelque chose de formidable. Empêcher le commerce dans une Europe où les différentes agricultures ont eu des bénéfices immenses de la politique agricole commune, parce que l'agriculture italienne a été sauvée par la politique agricole commune. L'agriculture française a été sauvée. Alors, nous tous ensemble, n'est pas chaque pays ou chaque région ou chaque province, est notre Europe. Une fois qu'on bloque la circulation des produits d'un pays à l'autre, on met en crise l'agriculture de l'Europe tout entière. Autre discours, évidemment, de manger localement. Moi, je préfère bouffer ce qui a été produit à côté de ce qui arrive de 2000 km de distance.
Bien sûr.
Mais il y a des choses qui normalement sont produites, le vin produit en Sicile, et je peux parfaitement le déguster chez moi à Paris. Qu'est-ce qu'il y a de mal? De toute façon, la dimension fondamentale qui a sauvé notre agriculture est l'Europe. Alors, on peut critiquer l'Europe, et on doit critiquer parfois l'Europe, parce que certaines décisions européennes qui, par exemple, impose la jachère dans une dimension que les agriculteurs considèrent exagérée, certaines de ces décisions font défendre l'agriculture européenne, signifie éviter des importations exagérées et sans contrôle de continents et de régions du monde
extra-européen
où il n'y a pas les mêmes règles en termes de défense de la production sur le plan de la santé. Et donc, il y a l'élément défense de l'Europe et protection de l'Europe par rapport à ce qui est produit dans d'autres régions du monde.
Alors, on rappelle que la PAC, elle est entrée en vigueur, la politique agricole commune, en 62, que c'est la France qui bénéficie du plus grand taux, à peu près de 17%, à 7 milliards d'euros, ça c'était en 2021. L'Italie, elle vient après, l'Allemagne et l'Espagne, à peu près 10% du budget, 4 milliards d'euros, mais des agriculteurs, des cultivateurs qui meurent de faim, qui sont au bord du suicide, c'est ça la balance.
La balance est qu'il faut, et le résultat de cette balance est qu'il faut des initiatives communes plutôt que des initiatives nationales. Et on sauvera notre agriculture si on renforcera cette PAC, pas si on la détruira. Évidemment, il y a des transformations de la production agricole. Évidemment, il faut défendre les producteurs. Et défendre les producteurs signifie tout d'abord ne pas exagérer avec les impôts sur la production agricole, chose qui arrive parfois. Ensuite, ne pas imposer des règles parfois trop strictes aux producteurs agricoles et surtout garantir un avenir aux producteurs agricoles en termes de prix. Parce que si un litre de lait est payé trop peu à l'éleveur, évidemment, celui-ci risquera d'être en difficulté et même devoir fermer son exploitation. Si le prix au supermarché est sensiblement supérieur au prix de la production, s'il y a une exploitation du producteur de la part des réseaux commerciaux agroalimentaires, alors il y a des contradictions et des problèmes qu'il faut résoudre. Mais résoudre les problèmes est une nécessité. Et le résultat de cette situation n'est pas de renverser la table de la politique agricole commune et de la modifier et de l'adapter à des situations. Tout ça dans une optique européenne et pas dans une optique nationale.
Alors, Alberto, j'avais vu d'ailleurs dans un de tes livres qui c'était sur le fanatisme, tu avais parlé aussi de la guerre des paysans. Ça recoupe un peu, l'histoire se répète, la guerre des paysans allemands au XIVe siècle. Il y avait des problèmes économiques. Là, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a aussi beaucoup d'inflation. Ils se plaignaient des mauvaises récoltes. Aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Il y avait les seigneurs terriens à l'époque. Aujourd'hui, c'est les intermédiaires de la grande distribution. On est un peu... L'histoire se répète. On va faire une pause musicale. On va, malheureusement, clôturer un peu ce chapitre sur les agriculteurs. D'ailleurs, avec un Gianmaria Testa, qui est un chanteur dont les parents étaient agriculteurs et qui lui-même a été pendant très longtemps chef de gare. Gianmaria Testa.
Guardi così, ma la vita è un attimo, e poi mi guardi così, sì, ma la vita è un attimo, e ci passa sui piedi e poi tutto diventa un ricordo, un lampo negli occhi la cerchi e non la trovi più. Mi parli così, però la vita è subito, e poi mi parli così, sì, ma la vita è subito, il tempo soltanto è il tempo di una fotografia, il lampo che abbaglia negli occhi e non ci vedi più. Ma se la vita è adesso, non farà lo stesso dirsi di no. Se questa vita addosso è tutto quel che posso, quello che ho.
Cappuccino, tutte le domeniche mattina, dalle 8 alle 11.
Il est 10h20 sur l'antenne de Cappuccino avec Alberto Toscano. On est dans une dimanche matin, conversation. On est un peu nel bar, in un bar di Roma ou di Torino. Et on refait le monde, mais avec un grand expert de la politique, de l'économie. Justement, en économie, il y a une réussite franco-italienne, ça nous intéresse. Exceptionnelle, extraordinaire. C'est Stellantis, la fusion, oui. Fiat-PSA, 19 milliards de bénéfices, oui. 4 000 euros d'intéressement depuis 2 ans pour les salariés. Carlo Tavares, là, il est au firmament. Là.
Ah oui, ça marche. Stellantis est un succès, comme tu dis, Fabrizio. Et effectivement, il fallait créer une société de dimension plus importante. Parce que PSA, Peugeot Citroën d'un côté et Fiat Chrysler de l'autre n'avaient pas cette masse critique nécessaire à être compétitif sur les marchés internationaux et aussi à faire des investissements parce que ce passage à l'auto électrique, à la voiture électrique implique des investissements gigantesques. Donc Stellantis a obtenu de très bons résultats technologiques et commerciaux, bravo, mais il y a aussi le revers de la médaille. Le revers de la médaille est qu'aujourd'hui, en Italie, l'ex-groupe Fiat est en train de mettre beaucoup de travailleurs au chômage technique. Il y a des hypothèses de nouveaux licenciements ou quand même de réduction du personnel. Et il y a des hypothèses de nouvelles délocalisations. Et l'Italie risque de payer le prix de ces mêmes succès. Et pour l'opinion publique italienne, pour le peuple italien, le MAC Fiat est important pour ce qu'il a présenté sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Et quelque part, démonter cette grande machine industrielle qui était Fiat ou la réduire à très peu de choses serait vraiment injuste. Aussi parce que, je dois le rappeler, Fiat a obtenu au fil des décennies des aides énormes de la part de l'État italien. Aujourd'hui, il est indispensable que Stellantis se pose sérieusement le problème de maintien de niveau d'occupation dans ses usines en Italie. Et en France, bien sûr, et en France.
Bien sûr, ben, c'est ça, c'est justement ce regard qu'on veut que sur une réussite comme ça, mais il y a des choses derrière qui sont là. C'est vrai que l'environnement automobile est très compliqué et c'est vrai que cette réussite, elle est incroyable, mais elle cache aussi beaucoup de choses. Et merci Alberto de nous faire partager ça. Je rappelle aussi que tu es, le temps file malheureusement, on va devoir avancer un peu plus. Je rappelle que tu es président... peut-être d'ailleurs de plusieurs choses, mais notamment du cercle, du prix littéraire du cercle Leonardo da Vinci, qu'on salue.
C'est une belle expérience. C'est une belle expérience, mais moi j'étais interrompu.
Je voulais rappeler justement, faire un petit coucou à Raphaël Cessa et à Valérie Massé, de dire que les livres que vous avez promus, c'est Des lendemains qui chantent de Alexia Stresi, donc prix Machiavel Leonardo da Vinci du roman en français, sur le jeune ténor Elio Leone à Paris dans les années 30. Qui a aussi La fièvre Masaccio de Sophie Chauveau sur la disparition mystérieuse du peintre Masaccio. Et le troisième aussi prix, c'est Le coup de cœur et mention spéciale découverte à Martine Romano, qui est d'Annecy, pour La Corallienne.
Exactement. Très livre qui mérite d'être lu.
Un très beau palmarès.
De la part du jury du prix Machiavelli. Moi aussi, je m'associe à toi, Fabrice, pour faire un grand coucou à Jean-Raphaël Cessa et à Valérie Massé. Et le prix Machiavelli, le cercle Léonard de Vinci, sont en train d'obtenir des résultats réels sur un terrain qui est la culture et qui est la mémoire, et qui sont fondamentales pour la relation franco-italienne. D'ailleurs, le traité du Quirinal que tu citais tout à l'heure célèbre et quelque part souligne l'importance de la culture de la relation franco-italienne. Ce prix Machiavelli et tous les prix du cercle Leonardo da Vinci veulent favoriser l'amitié franco-italienne sur le terrain de la culture et la meilleure compréhension surtout. Et je veux citer aussi une autre activité du cercle Léonard de Vinci, qui est le monument à l'émigration italienne en France.
Bien sûr. D'ailleurs, là, je signale qu'il y a l'homme de Vitruve qui a été installé, qui est magnifique. Je ne sais pas si tu as vu les photos. J'habite à côté, j'y passe tous les jours. Donc, je suis. Donc, il y a les mains qui sont installées. Il y a évidemment le socle en marbre. Et l'homme de Vitruve est magnifique. Il y a des couleurs cuivrées, argentées. Il s'inscrit vraiment derrière le viaduc de Nogent, à la Pierre Meulière. C'est magnifique. Ils ont fait un super travail. Et donc, a priori, l'inauguration sera après les JO. Fin septembre à la rentrée. Donc on les salue, le cercle Leonardo da Vinci. On salue aussi Las Papilles, les Italiens de Nogent, hein, pour rester dans la région, avec une grande soirée. J'espère que tu viendras, Renato.
Avec plaisir.
C'est le samedi 6 avril à partir de 20h30 à la Seine Vato avec le fabuleux orchestre Paolo Bertoli accompagné de ses chanteurs et musiciens. Vous pouvez réserver sur le Facebook de Las Papilles toutes les infos sur internet. Allez voir un peu un ballo piacentin. Je signale rapidement Le Diable au corps, c'était le film que je voulais vous parler de Marco Belloc qui avait fait scandale à l'époque sur l'ouvrage de Raymond Radiguet, mais revisité par Marco Belloc à l'époque des Brigades Rouges, hein, avec Marouchka Detmers. Alberto, toi, tu nous prépares aussi quelques ouvrages à venir.
Oui, mais j'ai envie de revenir si tu m'invites à nouveau.
On va te réinviter.
Pour en parler quand le livre sera publié. Donc ça sera,
on va te réinviter. On peut en dire un petit mot ou pas? C'est qui la grand-mère tu vas parler de la grand-mère du socialisme, c'est ça?
C'est une histoire franco-italienne qui passe par l'Ukraine, par la Russie, par l'Allemagne, par la Suisse. C'est une femme extraordinaire qui a marqué l'histoire européenne et qui a ensuite été totalement oublié. Donc, je te demande formellement de permettre de revenir ici
avec grand plaisir.
À la fin d'avril.
Avec grand plaisir, parce qu'il faut savoir qu'Alberto sait... France-Italie, coup de tête, coup de cœur, un super livre. Ti amo Francia, Gli italiani che hanno fatto la Francia, aussi disponible en italien. Un vélo contre la barbarie nazie sur Gino Bartali, ça aussi c'est un must. Et, d'ailleurs, Mussolini, ton dernier ouvrage en date, est-ce qu'il sort, comment il dit en Italie, tascabile, en format poche, bientôt?
C'est pas prévu que les Français, la marche sur Rome, sort en édition de poche. Par contre, la chose à laquelle je tiens énormément est le fait que le livre sur Gino Bartali, Un vélo contre la barbarie nazie, est obtenu en Italie le prix du livre pour la résistance. Et parler de résistance aujourd'hui est important, ne pas perdre la mémoire. Et je suis heureux que le prochain Tour de France partira de Florence pour rendre hommage à Gino Bartali.
C'est vrai. Et il va passer chez moi, d'ailleurs, à Piacenza, 3 jours après.
Mais c'est partout chez toi.
Non, c'est Piacenza. Piacenza et nos gens. Alors, sinon, je voulais... Oui, tu avais dit un mot, tu avais rendu hommage, d'ailleurs. Il nous reste une petite minute, mais voilà, on va en profiter. À Robert Badinter, justement, qui t'avait parlé des militaires italiens qui avaient sauvé des familles juives dans le sud de la France en 1943.
Oui, c'est 10 mois de l'occupation italienne à Grenoble, Chambéry, dans une partie de la France du sud-est, entre 1942 et 1943, a permis à ces Italiens qui étaient des occupants, des militaires des Alpini, de contribuer à sauver beaucoup de Juifs français et étrangers que le régime de Vichy voulait livrer aux Allemands pour qu'ils soient déportés. Et c'est les Alpini qui les ont sauvés. Parmi eux, la famille de Robert Badinter, près de Chambéry.
Renato ?
Oui, j'ai déjà assisté à une cérémonie ou deux, je crois, dans le sud de la France, et c'était à Saint-Martin-Vésubie. J'étais là-haut pour une cérémonie. Et
au mois de septembre.
C'est ça. Eh bien, j'ai vu par où ils les faisaient passer pour arriver à Cuneo.
Exactement.
Ils traversaient les Alpes là-bas. Mais une très belle cérémonie.
Pardon, mais le temps file. Grazie mille, caro Alberto.
A tutti
prestissimo.
Gli amici del cappuccino.
Ouais, il est 10h30.
Et adesso vado a bere un cappuccino.
Voilà, il est 10h30, on va aller boire un cappuccino avec Alberto.
Ebbene, cappuccino termina qui. Ancora una. Fabrice.
Sì, caro.
Allora.
Siamo lì. Siamo contenti, siamo felici, italiani.
È la prima volta che...
Dans le 13e.
Rue Richer.
Rue Richer, ouais.
Et alla prossima, allora.
On est bien
alla
ici.
Allez, a tutti, buona domenica, buona settimana e appuntamento a domenica prossima, a partire dalle 8, sempre che voi lo vogliate. Ciao a tutti.
Arrivederci,
buon weekend. Merci beaucoup, ciao.